Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Vous êtes pareil à chaque victoire, avait pu dire un voisin d'immeuble à Maurice Schumann, l'ayant croisé le 11 novembre 1918, petit garçon, et le rencontrant à la fin de la guerre en 1945. Il faut dire que, comme dans tant de familles, la guerre de 14-18 avait marqué celui qui allait devenir l'une des voix de la France à la BBC durant la Seconde Guerre mondiale, honneur et patrie. De la distinction brutale entre l'arrière et l'avant en 14-18, de ses études au lycée Janson de Sailly à Paris, des relations entre les garçons et les filles, les uns et les autres ne se rencontrant qu'après le bac, de son regard sur l'adolescent qu'il était, « moi j'étais imbu de ma petite personne », avouait-il, de son maître, le philosophe Alain, qui cherchait à faire en sorte que ses élèves puissent s'exprimer eux et non pas l'exprimer lui, et bien sûr, et évidemment, du général de Gaulle, de la France libre, il était question dans le Mémoire du siècle qu'Olivier Germain-Thomas lui avait consacré le 5 août 1986 sur France Culture.
Mémoire du siècle avec Maurice Schumann. Juin 1943, Radio Brazzaville.
Honneur et patrie, celui qui fut pendant 3 ans le porte-parole de la France combattante à Londres vous parle.
Il y a donc 3 ans, jour pour jour, heure pour heure, qu'une voix ranima la flamme alors qu'il allait s'éteindre et souda le plus grand malheur à la plus haute espérance. Grâce à elle, les Français, physiquement plus dispersés et spirituellement plus unis qu'ils ne le furent jamais, célèbrent partout dans l'orgueil l'anniversaire que sans elle, ils auraient commémoré la tête basse.
Une voix devenue un symbole en juin 1940. Derrière cette voix, qui a incarné l'espoir au moment du plus grand drame de notre histoire, pour reprendre une expression du général de Gaulle, derrière cette voix, un esprit, une intelligence constamment aux aguets. Naissance en 1911, début d'âge d'homme dans le journalisme, il devient en 1940 le porte-parole de la France libre à la radio de Londres, compagnon de la libération. Carrière politique après-guerre au sein du MRP, puis ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, sénateur, élu à l'Académie française en 1974. Sélection de certaines de ses œuvres, un essai politique avant-guerre, Le germanisme en marche, le recueil de ses allocutions de la France libre, Honneur et patrie, un essai littéraire et spirituel, La mort née de leur propre vie, un livre sur Qui vous savez, un certain 18 juin, un roman, Le concerto en ut majeur, Maurice Schumann.
J'ai été élevé dans l'exaltation patriotique pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est tout à fait naturel. Mais surtout, j'ai été terriblement frappé à cette époque par un phénomène aujourd'hui disparu, c'est-à-dire la distinction brutale entre l'arrière et l'avant. Mon souvenir le plus crucifiant de la Première Guerre mondiale, c'est moi sur les genoux de ma mère, en face de nous un parent, jeune lieutenant, qui a de superbes décorations avec lesquelles je me suis amusé à jouer. Et puis un malaise que je n'arrive pas à m'expliquer, que je ne me suis expliqué beaucoup plus tard, quand j'ai lu une pièce de Gabriel Marcel qui s'appelle « Le mort de demain ». En fait, ma mère était gênée parce qu'elle savait qu'elle voyait ce neveu pour la dernière fois. Moi, je sentais sans savoir, comme c'est souvent le cas des enfants. Maintenant, nous vivons à une époque où on court autant de risques à l'arrière qu'à l'avant, où la distinction de l'arrière et de l'avant n'existe plus. Mais pensez au songe de Monterland. à la jeune fille qui franchit la ligne de démarcation, car c'était ça à l'époque, la ligne de démarcation, entre les civils et les militaires, parce qu'elle veut retrouver un garçon qu'elle aime, et qui, quand elle entend une musique militaire que dont les sons sont renvoyés vers elle par un vent mystérieux, a le sentiment d'entendre la voix d'un autre monde.
Il y avait pourtant une solidarité complète entre l'arrière et ceux qui se battaient.
Ah, une solidarité, c'est beaucoup dire. Rappelez-vous le dessin de Forain, les soldats dans les tranchées qui se tournent vers l'arrière et qui dit, pourvu qu'ils tiennent, qui ça, les civils. Non, non, il y avait une grande méfiance envers l'arrière, une grande méfiance envers les embusqués. Et au fond, un écart très visible, vous savez, il ne faut pas, Dieu sait si je suis fidèle à cette époque, mais il ne faut pas idéaliser le passé. Pas oublier en particulier qu'il y a eu en 1916 et surtout en 1917 des mutineries dans chaque unité. C'est un mystère pour personne que je n'ai pas été pétainiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas plus que vous d'ailleurs, mais je suis très pétainiste en 1917 car c'est le maréchal Pétain, le futur maréchal Pétain, qui a à la fois réduit les mutineries et fait preuve d'une humanité grâce à laquelle l'armée française s'est ressaisie. Dieu merci.
L'enfant que vous étiez suivait, jour après jour, l'évolution du front.
Oui, pour moi, le communiqué, je suis né en 1911, j'avais 3 ans, en 1914, mais pour moi, le communiqué, c'est un personnage mystérieux, un être vivant. Tantôt favorable, tantôt bienveillant, tantôt méchant et hostile.
Et il ne pouvait pas y avoir dans votre esprit, disons, dans la seconde partie de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire vers les années 16, 17, 18 plutôt, il ne pouvait pas y avoir, voyant tant de morts, entendant parler tant de morts, un seul doute dans l'esprit de l'enfant que vous étiez sur la justesse de cette guerre.
Une douleur, mais douter, c'était trahir. Et l'idée de trahir était étrangère à un jeune enfant dont l'oncle était général et qui baignait dans un milieu patriotique. Mon père est mort au début de la guerre de 1940 avec au-dessus de sa tête une gravure représentant le duc d'Aumale répliquant à Bazaine qui venait de lui dire « il n'y avait plus rien, monsieur, il y avait la France, ça peut faire sourire, mais voilà où et comment j'ai grandi ».
C'est un sentiment qui était partagé par tous les enfants de votre âge, en tout cas ceux que vous fréquentiez.
Oui, oui, dans mon lycée en particulier. Avec cette restriction que je vous ai indiquée tout à l'heure, un jour, mon frère aîné, à moins que ce soit mon cousin Germain, est rentré du lycée Janson de Sailly en nous racontant une histoire qui est restée gravée dans ma mémoire. Un professeur grand blessé avait repris sa chaire au moment où les obus de la grosse Bertha commençaient à tomber sur Paris. Et mon frère a dit à ma mère, il avait 14 ans à peu près, « Maman, notre prof nous a dit, les Boches sont des bandits, parce qu'ils tuaient des femmes et des enfants avec des obus jetés à l'aveuglette sur Paris, ce qui aujourd'hui passerait pour tout à fait naturel, ce qui à l'époque passait encore pour monstrueux. Mais, a ajouté le prof, tel que mon frère le décrivait en rapportant ses propos, mais ça fera du bien aux civils, ça leur apprendra un peu ce qu'est la guerre. Oui, il y avait ça aussi.
Vous avez utilisé l'expression Boche, il y avait quand même un sentiment, il n'y avait pas de sentiment de loyauté à l'égard de l'adversaire.
Il y avait le sentiment que l'adversaire n'était pas loyal, il y avait le souvenir de la cathédrale de Reims, la neutralité belge-violée, et ma mère était née belge, elle était née à la Mure. Voilà, le viol de la neutralité belge, c'était le premier, le dernier mot.
Et un doute sur l'issue
de la révolte. Un doute sur l'issue, si on, à un moment quelconque, on l'a nourri, n'est jamais venu jusqu'à mes oreilles. On n'aurait jamais osé altérer l'esprit et l'âme d'un enfant dans mon milieu en lui laissant croire qu'on pouvait douter de la victoire.
Et les conversations entre enfants, la plupart du temps autour de la guerre ?
On jouait à la guerre.
Vous jouiez à la guerre ?
On jouait à la guerre. Je portais un casque, j'avais une panoplie. Et, tenez, je vais vous raconter une histoire très typique. Je suis rentré à Paris dans la nuit du 24 au 25 août avec la division Leclerc, du 24 au 25 août 44. Et un miracle a fait que j'ai reçu l'ordre d'opérer ma jonction. J'étais entré par la porte de Chantilly avec une unité qui était entrée par la porte Dauphine devant ma maison natale. et devant la seule maison où j'ai jamais habité à Paris, entre ma naissance et mon mariage. Et le concierge s'est jeté dans mes bras, un médecin qui habitait un étage de la maison s'est également jeté dans mes bras. C'était chez lui que s'était réuni à plusieurs reprises le Conseil national de la Résistance, et puis est arrivé un monsieur qui était déjà locataire en 1918, et qui m'a dit, tiens, vous êtes pareil à chaque victoire. Je lui dis, comment je suis pareil? Il m'a répondu, oui, vous aviez 7 ans, 1918, mais vous aviez déjà un casque et un revolver. Je lui ai répondu, il ne manque que le sabre.
Si je comprends bien, donc, avec cette analogie, Maurice Schumann, l'engagement qui a été le vôtre en 1940 doit beaucoup à ses premières impressions de l'enfant.
Énormément. C'est-à-dire que la défaite pour moi, c'était l'état anormal, c'était le scandale, c'était les morts de 14 à 18 tombés en vain, c'était vraiment l'insupportable à l'état pur. Le terrain que j'offrais à l'appel du général de Gaulle était évidemment très favorable.
Oui, parce que dans la majorité des Français, hélas, la réaction était le contraire. Du fait de l'hécatombe de 14-18, du fait que les Français ont eu l'impression de perdre la paix après avoir gagné si difficilement la guerre, la réaction a été plus jamais ça. Donc vous, c'était le contraire. C'était dire, puisque nous avons...
Non, mais les Français en 1939 se sont bien conduits. Et en 1940...
L'armée française, oui. Les politiques...
Mais les politiques se conduisent jamais très bien, n'est-ce pas, vous le savez. Parlementaires depuis 40 ans, je peux vous en donner l'assurance. Ils ont trop de mal à ajuster les unes aux autres les préoccupations qu'ils habitent. Non, je plaisante. Mais l'attitude générale a été correcte. Le Parlement, entre 14 et 18, n'a pas toujours à faire un beau spectacle. Bien loin de là, lisez les comités secrets, il y a eu des crises ministérielles pendant toute la guerre, ce qui paraît à peine concevable. Enfin, Clémenceau vint, mais il a fallu attendre longtemps pour qu'il vînt. À ce propos, tenez, un souvenir me revient en mémoire. J'avais une institutrice, s'appelait Mademoiselle Limenton, qui était le type même de la vieille demoiselle bien-pensante. Et un jour, elle a bousculé mon univers. Nous traversions la place du Trocadéro, et une voiture passe... Et elle me dit d'un ton sec, c'est Clémenceau. Et le lendemain, elle me dit, Clémenceau a échappé à un attentat quelques instants après le moment où nous avons croisé sa voiture. Et en effet, vous vous rappelez qu'un anarchiste a tiré sur lui et Dieu merci, il ne l'a blessé que légèrement. Et elle a ajouté, je ne l'aime pas, mais tout de même. Alors le fait qu'une personne de mon entourage... que j'avais vu pleurer lorsque les cloches de l'armistice ont retenti. Je revis cet incident. Et puis ne pas avoir le culte de Clémenceau, ça me déroutait complètement. J'ai mis longtemps à interroger ma mère, qui, elle, avait un culte pour Clémenceau. Puis j'ai fini par comprendre. Longtemps après, ma mère était la fille d'un médecin libéral, très probablement franc-maçon, et naturellement ardemment patriote, puisqu'il avait été obligé, pour nourrir sa nombreuse famille, de s'installer en Belgique après la guerre de 71, ne trouvant pas d'endroit en France où il puisse ouvrir un cabinet et prospérer, mais anticlérical, donc à l'image de Clémenceau. Tandis que pour Mademoiselle Limenton, Clémenceau, c'était l'homme qui avait expulsé le nonce. Tout ça, c'est une époque qui m'était totalement étrangère. C'était l'anticlérical, c'était peut-être, encore que l'affaire n'ait jamais été évoquée devant moi, c'est peut-être aussi le Dreyfusard, je n'en sais rien. Tandis que Foch, frère d'un jésuite, et communiant tous les jours, ça c'était bien. Alors elle jurait que par Foch, et elle se résignait, ou se ralliait à Clémenceau. Il faut se rappeler tout cela... Pour imaginer le chemin parcouru et la transfiguration de l'époque, qui n'a vraiment plus rien de commun avec celle d'aujourd'hui.
Vous avez des souvenirs du jour de la victoire ?
18 ?
Oui.
Ah, je revois encore le passage de l'Atlas de géographie que Mademoiselle Limenton me faisait déchiffrer. Et soudain, de l'autre côté de la place Victor Hugo, je vois un drapeau apparaître. Et au même moment, les cloches de Saint-Honoré-d'Eylau m'était à sonner. Et bien entendu, on s'attendait à l'armistice. Et Mademoiselle Limenton dit « Voilà !» et elle éclate en sanglots. Elle me prend dans ses bras. Là-dessus, je sens, c'est un instinct d'enfant, que ce jour-là, tout est permis. Et je me précipite dans la cage d'escalier en criant. Là-dessus, ma mère me prend dans ses bras et me dit « Viens ». Elle me prend donc avec elle, elle me conduit sur le balcon et elle me dit « Tu vois, en face, il y a des drapeaux, mais les volets sont fermés. Et dans la maison, nous allons descendre, tu verras. À tel étage, les volets sont fermés. À tel étage, les volets sont fermés. » Alors je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que là, il y a les mamans qui sont en train de penser à leur fils, à l'âge que tu as maintenant, et qu'ils ne l'enverront plus parce qu'il est mort pour la victoire. » Ça m'a bouleversé et ça m'a marqué.
Après la victoire, vous êtes lycéen au lycée Janson de Sailly.
Oui.
Quelle était l'atmosphère du lycée ?
L'atmosphère du lycée Janson de Sailly était une atmosphère, elle aussi, difficile à appréhender maintenant. Quartier bourgeois, pas de pauvres, de vrais pauvres, sur les bancs de l'école. Lorsque je suis entré au lycée, l'école unique, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement secondaire, n'existait pas encore. La gratuité de l'enseignement secondaire est venue pendant que je faisais mes études. J'ai donc commencé mes études avec des enfants dont les parents pouvaient payer. Je ne dis pas du tout que c'était un milieu rétrograde ou plein de préjugés de classe. J'ai une classe d'élite dans laquelle se trouvait le poète Patrice Latour-Dupin, qui a été mon ami jusqu'à sa mort. Le professeur Rossier, qui a sauvé des millions de vies prématurées, un futur ambassadeur de France, Bernard Dufournier, qui a été mon directeur de cabinet, un futur secrétaire général et critique de la Comédie française et critique dramatique, j'en ai peu de gars. J'étais bon élève et sur mon livret scolaire de philo, le professeur a écrit en tête de la meilleure classe de ma carrière. J'ose dire que les noms aristocratiques étaient nombreux, les familles fortunées étaient nombreuses. Ce brassage auquel a toujours donné lieu la caserne et auquel probablement, sûrement même, donne maintenant lieu le lycée, tout ça n'existait pas. Quant à la mixité, elle était inconcevable. Songez à ceci, un professeur d'une classe de préparation à Centrale, qui s'appelait M. Saint-Lagu, avait obtenu que sa fille, qui préparait Centrale, puis suivre ses cours. Une fille paraissait donc dans la cour du lycée. Et c'était une fille qui avait l'air de ce qu'elle était, c'est-à-dire d'une étudiante laborieuse, avec des lunettes, mal coiffée et mal habillée. Bon. Eh bien, quand elle paraissait, il y avait une espèce de silence dans l'ensemble de la cour. On la regardait de loin, avec, je dirais pas avec envie, mais avec admiration et curiosité. La relation entre filles et garçons, à l'époque, commencer après le bac.
Mais pas de plaisanterie à l'égard de cette jeune fille.
Ah, mais pas question.
Plutôt de la distance.
Pas question.
Distance, c'est une sorte d'inquiétude, un peu.
Ça me rappelait presque le mystère, ce que me disait ma mère, qui avait été une des deux premières étudiantes, elle était née en 1875, de l'université de Liège, et qui me disait, voilà, lorsque tous les garçons étaient installés dans l'amphithéâtre, on nous introduisait, à notre tour, nous étions séparés des garçons comme les objets d'art dans les lycées par une lourde corde. Nous devions nous tourner vers la gauche pour ne pas les voir. Et quand le cours était fini, nous sortions les premières et lorsque nous avions fait 5 ou 600 mètres, ils étaient autorisés à sortir. Elle m'a révélé ça un jour où sur une plage, j'ai vu un monsieur habillé comme on était à l'époque sur les plages avec un col dur, un beau chapeau. Vous n'êtes pas Thérèse Michel, mais si, monsieur. Eh bien, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais, parce que nous étions ensemble étudiants sur les bancs de la faculté à Liège. Enchanté, monsieur. Alors, quand ce monsieur est parti, j'ai dit, mais maman, comment se fait-il qu'il vous connaisse et vous ne le connaissiez pas ? Elle m'a donné l'explication que je viens de vous fournir. Imaginez qu'un homme de mon âge a vécu sur une autre planète.
Enfin, il y avait quand même des goûters entre cousins et cousines.
Ah oui, c'est ça, des goûters sous la surveillance, quand on avait de l'argent d'une gouvernante, et quand on n'avait pas d'argent, sous la surveillance de grand-maman, ou de grand-papa, ou de la tante Lali.
Et quand on se promenait dans les jardins avec les gouvernantes, justement, qu'on rencontrait des jeunes cousines ou des jeunes filles, il y avait toujours cette même distance extrême.
Oui. Mon père m'a raconté, quand je dis ça à mes enfants ou à mes petits-enfants, histoire de rire. Mon père m'a raconté qu'il n'avait jamais été seul avec ma mère jusqu'au jour de leur mariage. Il y avait une vague cousine plus âgée, c'est pas qui leur servait de chaperon, comme ça.
Mais quand on a connu...
On est passé d'un excès à l'autre.
On est passé d'un excès à l'autre, mais quand on a connu une forme de vie comme celle-ci, et en vous écoutant, je pensais à certaines images que j'ai vues encore récemment en Inde, où justement il y a une si grande distance encore dans l'éducation entre les garçons et les filles. Ça développe considérablement le mystère et la puissance mystérieuse de la femme.
Oui.
Donc là, il y a probablement une grande perte de notre civilisation.
Ah oui, oui, bien sûr. Il y a d'un côté une perte de notre civilisation, mais il y a d'un autre côté, vous savez que je suis un adversaire de la permissivité, mais je ne vais pas pour autant idéaliser le passé, c'était absurde. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote tragique qui m'a poursuivi toute ma vie. Ceux qui entrent en cagne en rhétorique supérieure sont de bons élèves, qui ont beaucoup travaillé. Bon, pour la première fois de leur vie, ils étaient assis au lycée Henri IV, sur des bancs à côté de jeunes filles, qu'ils appelaient d'ailleurs mademoiselles. L'idée de les tutoyer ne leur venait même pas à l'esprit, et l'idée de les appeler par leur prénom ne leur venait pas à l'esprit. Bon, il est arrivé ce qui ne pouvait pas ne pas arriver. Un de nos condisciples, assis pour la première fois à côté d'une jeune fille à l'âge de 17 ans ou 18 ans, l'a désirée, l'a aimée, elle lui a répondu que la réciproque n'était pas vraie, et pendant les vacances de Pâques, il s'est tiré une balle dans la tête. Alors, de grâce, essayons, si c'est possible, de trouver un moyen terme entre un passé à tout jamais révolu et un présent qui a versé dans l'excès inverse.
Au lycée Janson de Sailly, une discipline de fer ?
Non, la discipline n'a jamais été de fer. Elle a été solide, mais n'était pas de fer. Cependant, j'y pense en vous écoutant, j'ai connu l'époque où il y avait encore un tambour pour annoncer les récréations et la fin des récréations. C'est seulement quand j'étais peut-être en seconde, troisième ou seconde, j'en suis pas sûr, que le tambour a été remplacé par un signal sonore. Le tambour nous rappelait le lycée impérial.
Un grand respect pour le maître et surtout pour ce qu'il symbolisait. C'est-à-dire, oui. Je suppose qu'à travers lui, on estimait la personne et en même temps la fonction.
Et à juste titre, quand on a célébré le centenaire du lycée Janson de Sailly, ou soit dit entre parenthèses, je suis entré, moi, en 1919. La première pierre en avait été posée en 1884 par un certain Victor Hugo qui habitait tout à côté, par un certain Jules Ferry. Il y avait donc 35 ans à peine que la première pierre avait été posée lorsque j'y suis entré. Évidemment, 35 ans, quand on a 8 ans ou 9 ans, ça apparaît comme un siècle. Enfin, je referme cette parenthèse qui valait, je crois, la peine d'être ouverte. Quand on a célébré le centenaire, moi, j'ai rendu hommage à ces vieux profs. Et avec le recul des années, je suis plein de reconnaissance pour eux. C'était des hommes en fin de carrière. Ils n'avaient rien à craindre de personne. Ils n'avaient rien à espérer de personne. Ils avaient 60 ans, 61 ans, 62 ans. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'était la retraite. Il ne pouvait plus rien se passer. Eh bien, ils nous suivaient avec une attention, avec une vigilance exemplaire. Et tenez, ils nous préparaient au concours général. Ils espéraient avoir des nominations. Ils en ont eu beaucoup dans ma classe. Pourquoi ? Pour un avancement ? Ils ne pouvaient pas avoir d'avancement. Pour notre avancement, pour notre promotion, pour nous apprendre à comprendre le double prix de la sélection, le concours général est une sélection, et de la gratuité, puisque le concours général n'ouvre la porte à rien. Eh bien tout ça, je n'y pense pas sans émotion, et presque tous les jours, il m'arrive en écrivant une phrase de me dire, tiens, ça je le dois à Monsieur Hergier, mon professeur de seconde, ça, je le dois à M. Mogg, mon professeur de première. Je garde un enseignement de la philosophie à la faculté catholique de Lille. Et bien souvent, je me dis, ça, je le dois à Alain. Alors là, je me le dis un jour sur deux. Et il m'arrive aussi de me dire, ça, je le dois à M. Roussel, mon professeur de philo.
Les discussions... C'était
des assets de l'éducation. Et eux alors, méritent de demeurer exemplaires.
Les discussions que vous aviez avec vos condisciples étaient politiques, religieuses,
politiques? Très, très souvent politiques. Très, très souvent politiques. Il y avait au lycée une grande vie politique. La grande majorité était de droite ou d'extrême droite. Le mot racisme était puissant. L'Action française avait des ramifications. La gauche proprement dite était pour ainsi dire pas représentée. Cependant, il y avait eu un élève au lycée, très peu de temps auparavant, puisqu'il y avait 4 ans de différence, qui avait laissé un nom qui s'appelait Mendès France. Il avait fondé la Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste, qui en principe ne recrutait qu'à partir de l'enseignement supérieur ou des classes de préparation aux grandes écoles. Et il y avait une section, enfin il y avait des adhérents.
Et vous aviez déjà les idées sociales qui ont été les vôtres par la suite ?
Oui.
Elles sont nées comment ? Elles étaient de famille
pas du tout.
Au contact de la vie, de la réalité de la misère
ou... Oui. Disons que mon père était un homme du centre droit. Ma mère était de formation libérale, vous disais-je, ou radicalisante, mais ça n'allait pas très loin. Je vais beaucoup vous étonner. L'esprit social que vous voulez bien m'attribuer, dont je suis en effet imbu et dont j'essaye de conserver les stigmates, il a été éveillé d'une façon très étrange, qui vous montre d'où nous revenons. J'habitais donc place Victor Hugo, je suis né dans cet immeuble au coin de l'avenue Bugeaud. Et je me suis aperçu au bout d'un certain temps que l'étage des domestiques n'avait ni l'électricité, ni l'eau courante, ni le chauffage. Par conséquent, nous étions bien au chaud, très bien chauffés, nous étions magnifiquement éclairés, nous avions deux salles de bain, ce qui était relativement rare à l'époque. La cuisinière et la femme de chambre, mes parents avaient une cuisinière et une femme de chambre. Dieu merci, ils ont perdu toute leur fortune, ce qui m'a permis de vivre libéré de toute attache matérielle, mais très tard, alors que j'étais déjà élevé. Dans la crise de 1929-1930, ils avaient une cuisinière et une femme de chambre qui montaient à l'étage supérieur, et il n'y avait pas de chauffage dans leur chambre, il n'y avait pas d'éclairage, et elles se lavaient en versant le contenu d'un pot dans une cuvette. Ça m'a scandalisé. Et je ne m'y suis pas encore résigné. Quand un membre de ma famille m'a fait cette superbe réponse, mais bien sûr, il faut être très gentil avec tout le monde, mais surtout, il ne faut pas habituer ses filles à un luxe qu'elles ne connaîtront pas plus tard, ben, j'ai eu la révélation d'un abîme. En réalité, j'étais prêt à rencontrer Marc Sangnier, qui à moi, comme à Mauriac, a donné mauvaise conscience pour la vie.
Mais vous n'avez pas pu parler de ces problèmes avec vos parents d'une manière ouverte.
Si, tout à fait.
Si, vous avez donc manifesté votre révolte.
Oui, tout à fait.
Et ça n'a servi à rien, ça n'a rien changé.
Ça n'a pas changé grand-chose.
Oui, vous êtes resté sur vos positions, eux sur les leurs.
Ben, les leurs n'étaient peut-être pas des positions, c'était une autre approche. Mon père, qui avait une entreprise commerciale et industrielle, était adoré de son personnel. Je m'en suis rendu compte lorsqu'il a pris sa retraite. Mais en 1928, adoré qu'il était de son personnel, il considérait qu'une politique sociale, c'était le paternalisme. C'était être ce qu'il était, c'est-à-dire un excellent patron, en suivant individuellement ses employés, en ne laissant tomber personne. Mais la nécessité des lois sociales, je ne suis pas sûr que ça lui apparaissait.
Après le lycée Janson, le lycée Henri IV.
Henri IV et la Cagne.
Grand changement de,
énorme changement,
de milieu social, de psychologie.
D'abord un certain changement de milieu social très important. Pourquoi ? Parce que dans les Cagnes de cette époque, comme de toutes les époques d'ailleurs, il y avait un nombre important de fils d'instituteurs. Il n'y a pas de fils d'ouvriers, hélas. Mais il y avait un très grand nombre de fils d'instituteurs. Alors politiquement, par exemple, changement total. Majorité très nettement de gauche. Un ou deux vagues Camelot du Roi, deux ou trois Talat, comme on disait, et une majorité très nettement de gauche. L'atmosphère instituteur. Pompidou, fils d'un instituteur et d'une institutrice, était le plus typique des cagneux de cette époque. Bon. Voilà déjà un premier changement. Deuxième changement, alors capital, la rencontre d'Alain. Malheureusement, tout cela a coïncidé avec des difficultés de santé que j'ai éprouvées à l'époque, qui m'ont été très bénéfiques, parce que j'étais un très bon élève, bon, j'avais eu un prix de philo au concours général. J'avais eu l'accessit, le thème latin, j'étais monté sur des tribunes. J'étais insupportable. J'étais imbu de ma petite personne. Je ne me rendais pas compte, je ne me l'avouais pas, mais je l'étais. Et du jour au lendemain, alors j'ai senti qu'un crachement de sang entre l'écrit et l'oral du concours de l'école normale supérieure à 18 ans, c'est une très bonne leçon à condition de s'en remettre.
Oui, et de savoir en profiter, de savoir en tirer les leçons.
Et je m'en suis remis.
J'ai toujours été un peu, non pas vraiment étonné, mais un peu surpris par votre attachement à l'égard d'Alain, qui est l'attachement d'une grande fidélité. La fidélité joue un grand rôle dans votre vie. Mais quand on sait quel a été votre itinéraire, quelles sont vos relations avec les âmes douloureuses qui cherchent tout le temps un contact avec l'invisible, et quand on voit la pensée philosophique d'Alain qui est, en fin de compte, limitée au monde de l'apparence, qui est une pensée critique très, très élaborée, c'est-à-dire qui veut continuellement remettre en question les certitudes et les idées reçues. Donc ça, ça vous ressemble bien. Mais il y a quand même une négation chez lui de tout le domaine transcendantal.
Ah, pas une négation, non. Lisez ses propos sur la religion. Écoutez, je vais vous répondre par deux citations. La première est une citation de Pierre Bost. Pierre Bost, l'écrivain, le romancier, qui a été son élève, comme moi, était frappé par le fait que parmi ses disciples, on trouvait un peu de tout, comme il dit. Et il conclut son analyse par cette phrase. En somme, il nous a enseigné la liberté, à nous de savoir nous en servir. Il nous a laissé libres d'utiliser à notre manière l'instrument dont il nous avait doté. Et la deuxième citation, elle est d'Alain lui-même. Avoir fait d'un crucifié la plus haute valeur, voilà ce que le christianisme a donné au monde.
Oui, mais c'est peut-être le limiter à sa valeur simplement historique. Comme s'il s'agissait d'un événement historique parmi d'autres.
Humaine.
Alors que pour vous, il s'agit quand même de l'incarnation de Dieu.
Je me garderai de vous dire...
Qu'il y croyait.
Qu'Alain était chrétien.
Oui. Mais il laissait toutes les portes ouvertes.
L'enseignement d'Alain laissait toutes les portes ouvertes et qu'il avait un sens très averti de l'invisible. C'était un agnostique, assurément. C'était un agnostique au bord du mystère. Il n'avait rien du négateur combiste que certains de ses premiers billets de la Dépêche de Rouen pouvaient laisser croire ou laisser pressentir quand je suis entré dans sa cagne en 1928. Et jusqu'à la fin, j'étais avec lui en correspondance et je vous assure que l'évolution de Simone Veil, par exemple, doit beaucoup, elle aussi, à l'enseignement d'Alain. Beaucoup.
J'ai toujours été fasciné par cet attachement qu'ont tous les anciens élèves d'Alain. C'est parce qu'il avait une capacité de se donner si profondément à son métier ou vous lui devez quoi avant tout? Justement, cette ouverture sur tout
L'ouverture sur tout et l'éveil de la liberté. Vous avez alors parlé de remise en cause, de permanente remise en cause. Cette permanente remise en cause, c'est le fond de son enseignement. De l'enseignement d'un homme qui s'adressant naturellement à des élèves triés sur le volet, par définition, puisqu'on pouvait entrer à l'époque comme aujourd'hui, dans une cagne qu'à partir d'un certain niveau, et après certains résultats scolaires. Eh bien, Alain cherchait quoi? Il cherchait à faire en sorte que ses élèves puissent s'exprimer, et non pas l'exprimer. De temps en temps, nous avions une dissertation philosophique sur un sujet imposé, une par mois à peu près. Mais le reste du temps, il nous demandait de rédiger les propos, si j'ose dire, à sa manière, de dire ce que nous pensions, ce que nous avions sur le cœur, d'écrire en marge d'une lecture. Il nous a appris à partir de nous-mêmes pour aller vers l'extérieur, ou à partir d'une lecture choisie par nous pour aller vers l'extérieur, au lieu de nous conformer à un modèle imposé.
Il y avait un dialogue entre les élèves et lui?
On ne peut pas dire qu'il y avait un dialogue parce que nous étions trop nombreux. Mais en fait, il y avait un dialogue à travers ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire à travers les corrections qu'il apportait aux copies spontanées. Voyez-vous ?
Et vous aviez l'impression d'être connu chacun pour ce que vous étiez. Voilà. Vous n'étiez pas une classe, vous étiez quand même un groupe d'individus, oui. Chacun différent.
C'est très exactement cela.
Et il le sentait, il connaissait bien. Écoutez, la psychologie des uns et des autres.
Il le sentait si bien que je lui ai rendu à la fin de sa vie un menu service. Il m'a envoyé un exemplaire que je garde précieusement d'un ouvrage que je trouve excellent d'ailleurs, Les Entretiens au bord de la mer. Et dans cette dédicace qu'il a rédigée plus de 20 ans après que je fus sorti de sa cagne, il a fait de moi un portrait d'une vérité absolument extraordinaire. Ce livre est fait pour ceux qui veulent toujours bondir au-delà, en somme, il est bien fait pour vous. De vous, tel que je le revois après tant d'années, etc. C'était un pudique, mais un pudique plein de sentiments. L'amour qu'il avait pour Jean Prévost, qui est mort dans le Vercors, l'amour qu'il avait pour ses filles, comme il les appelait, c'est-à-dire Simone Pétremont et Simone Veil. Le livre que l'Académie française couronne de Cernin, vous savez, le premier livre complet sur lui qu'a écrit André Cernin, et qui a été écrit par André Cernin, nous révèle un Alain inconnu, c'est-à-dire un Alain sentimental, qui a 50 ans passés, à près de 60, envoie la femme qu'il aime et qui a traversé l'Atlantique qui travaille quelque part en Amérique à ce moment-là. Il y a eu, je crois, une brouille, ils sont séparés tout en continuant à s'aimer. Il lui envoie des poèmes, d'ailleurs très bien tournés, mais des poèmes d'amour, tels que vous et moi, nous en avons écrit, nous aurions voulu pouvoir en écrire quand nous avions 18 ou 19 ans. C'est un homme complet. C'est un homme libre et un homme complet. Et puis, il nous a enseigné surtout à vouloir les conséquences de ce que nous voulons. Alain, c'est l'homme qui, en 1914, pour pouvoir formuler un jugement sur la guerre, s'engage. Après quoi, il écrit, il a le droit d'écrire, « Mars ou la guerre jugée ». Et puis Alain, c'est aussi, et c'est encore, cet homme de la perpétuelle interrogation, qui me fait penser à cette phrase de Jean Rostand, le crime de la mort, ce n'est pas de nous tuer, mais c'est de conférer l'éternité à notre angoisse. Alors, on a aimé cette phrase.
Après la Cagne Henri IV, vous voici à la faculté des lettres, dans les années 30.
Me voici en 30, en même temps, à la faculté des lettres et dans le journalisme. Après les épreuves physiques que j'avais traversées, il le fallait. Et dès l'âge de 20 ans, je suis d'une part à l'agence Havas, et d'autre part dans les publications, d'abord aux nouvelles littéraires, puis presque aussitôt à l'agence Havas, et dans les publications de ceux qui étaient alors les catholiques d'avant-garde. Temps présent, qui succède à 7 à partir de 1937, et La vie intellectuelle, La revue des Dominicains. La première fois que mon pseudonyme, puisque mon nom appartenait à l'agence, apparut sur la couverture d'un petit livre, il s'appelait « Le germanisme en marche », c'était aux éditions du CERF, c'était préfacé par Mauriac, et c'était la réunion d'articles publiés dans La vie intellectuelle.
Et là, votre engagement dans ce qu'on peut appeler le christianisme de gauche est vraiment établi.
Disons christianisme d'avant-garde. N'appelez pas christianisme de gauche, parce que les hommes qui m'entouraient n'étaient pas proprement parlé des hommes de gauche. Contraire.
Enfin, ou bien là, on l'appelle le christianisme social, non? Vous préférez d'avant-garde?
Je dirais le christianisme d'avant-garde à l'époque. Nous étions ceux qui proclamions la rupture entre l'ordre chrétien et le désordre établi, et qui surtout ne voulions à aucun prix que le christianisme et son avenir fussent confondus avec les modes politiques et intellectuels de ce temps, qui, il faut bien le dire, versait dans une admiration béate pour le fascisme et subissait la fascination du nazisme. Alors là, à aucun prix. C'est en cela que nous avons été les résistants avant la lettre. Et c'est cela d'ailleurs qui a déterminé l'évolution de Mauriac. Lequel Mauriac, au début de la guerre civile espagnole, 1936, réagit, dit-il lui-même, en homme de droite. Mais qui sent à un moment donné la nécessité, et vous, les mêmes mots changent de sens, la nécessité de préserver l'identité française de ces modèles étrangers susceptibles de l'altérer.
Ah oui, donc c'est pas pour des raisons en quelque sorte idéologiques. Là.
C'est aussi presque pour des raisons religieuses.
Oui, enfin, là, c'est pour une raison d'ordre national.
Religieuse et nationale.
Vous étiez assez nombreux à la faculté ayant adopté ce que vous appelez le christianisme d'avant-garde?
Non, nous étions très très peu nombreux. Nous étions, je peux même dire, une poignée. Je vais vous raconter une histoire qui vous amusera. J'avais 25 ans, j'étais sorti de la faculté, j'étais plus que journaliste. Je fais une conférence au 104 de la rue de Vaugirard devant les étudiants catholiques. Et là, je m'aperçois que je représente une tendance plus que minoritaire. Et celui qui souligne le caractère minoritaire de cette tendance est à l'époque le président du 104, tout au moins son animateur. Il a 20 ans, il a un grand avenir. Il est aujourd'hui président de la République.
Boris Schumann, dans les années 35-39, donc vous êtes représentant de l'agence Havas à Londres et à Paris. Grâce à cette fonction, vous êtes à même de rencontrer...
Je suis à Londres de 1933 à 1935. De 35 à 39, je suis grand reporter.
Oui.
Et en cette qualité, je visite le monde.
Vous visitez le monde et vous rencontrez les grands problèmes diplomatiques de l'époque.
Oui.
Ce qui fait que, pour quelqu'un de votre formation et de votre curiosité, il y a là une sorte d'expérience formatrice formidable.
Oui, tout à fait précieuse. Tout à fait précieuse. Songez qu'en 1935, alors j'ai 23 ans, j'accompagne Anthony Eden, dont je suis resté l'ami jusqu'à la fin de ses jours, le futur ministre des Affaires étrangères, premier ministre de Grande-Bretagne. À ce moment-là, il est lord du saut privé, c'est-à-dire vice-ministre des Affaires étrangères. Je l'accompagne à Berlin, je l'accompagne à Moscou, à Prague, à Varsovie. J'ai avec lui des entretiens quotidiens. Voilà un exemple. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres.
Et vous pouviez être à la fois engagé sur le plan, disons, de vos idées sociales et de vos idées patriotiques, et en même temps être ce que l'on demande à un journaliste, c'est-à-dire observateur neutre.
Ah, alors, j'étais entièrement neutre sous le nom de Maurice Schumann à l'agence Havas. Je n'étais pas entièrement neutre sous mes pseudonymes dans les publications dont nous venons de parler. Je signais tantôt Maurice Jacques, tantôt André Sidor. Car on m'avait, et tantôt Stéphane Turin, on m'avait demandé de choisir plusieurs pseudonymes, car non seulement je devais mon nom à l'agence, mais encore il ne fallait pas que l'on puisse percer mes pseudonymes. Il y a d'ailleurs eu un incident assez curieux. Au retour de Munich, j'écris d'un jet un très long article pour La Vie intellectuelle, qui est publié en brochure, avec une préface de Mauriac. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Bonnet, se fait poser une question à la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, par un député de la Drôme, qui d'ailleurs versera plus tard dans la plus noire collaboration, qui donc est l'homme, le monsieur, qui se dissimule derrière ce pseudonyme et qui critique votre politique, le but étant naturellement de se faire répondre que c'était moi et de me faire perdre ma situation à l'agence Havas. Je l'ai d'ailleurs perdu.
Pour cette raison ?
En ce sens que dans les 6 mois qui ont précédé la guerre, je suis resté à l'agence, mais je suis devenu, j'ai encore fait des grands voyages, mais j'ai cessé de m'occuper des problèmes diplomatiques. On m'a envoyé au congrès eucharistique de Budapest, pour vous citer un exemple. On m'a envoyé à Rome au moment de l'élection pontificale, mais on m'a tenu à l'écart, entre Munich et la guerre, à l'écart de la grande politique. La revanche est venue quelques années plus tard. J'étais président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et nous avions à entendre le rapporteur du budget des affaires étrangères à la commission des finances de l'Assemblée. Qui était-ce ? C'était M. Georges Bonnet, l'ancien ministre des affaires étrangères de 1938. Et je vous avoue que quand j'ai dit « je suis heureux de saluer l'arrivée de M. Georges Bonnet, je vais lui donner la parole », j'ai éprouvé le sentiment d'un juste retour des choses.
Quelle a été votre réaction au moment de Munich ?
Ma réaction a été celle que j'indique dans la préface que j'ai écrite pour le livre de Massip et d'Escola sur Munich. Primo, c'est un désastre. Deuxièmement, un événement ne se produit jamais le jour où il se produit. Il se produit le jour où un autre événement qui l'a précédé le rend inéluctable. Munich s'est passé en 1938, apparemment, en réalité le 7 mars 1936. J'ai donc condamné Munich. Mais j'ai condamné Munich et l'esprit munichois au nom des erreurs antérieures, plus que je n'ai condamné ceux qui, devant la situation dans laquelle ils étaient plongés, n'avaient guère d'autre choix. Voilà ma réaction. Mais alors, ce que j'ai annoncé dans le petit livre dont je vous parlais tout à l'heure, sous une forme un peu plus discrète, c'était que la guerre était devenue fatale parce que l'Allemagne se trouvait virtuellement délivrée du cauchemar des deux fronts. Car la rupture des alliances orientales, et en particulier la fin du pacte franco-soviétique, et la réconciliation provisoire de l'Allemagne hitlérienne et de la Russie stalinienne, tout ça était inscrit en filigrane dans les accords de Munich, dans l'atmosphère de Munich. Alors j'ai eu le mérite de l'écrire dès le mois d'octobre 1938, et de le consigner dans un petit livre, publié en novembre 1938, comme d'ailleurs le soulignent Massip et Descola dans l'ouvrage qu'ils ont publié à l'occasion du 30e anniversaire.
Vous aviez connaissance des théories militaires d'un certain colonel de Gaulle à cette époque ?
Oui. Alors, ça, c'est une excellente question. Comment en avais-je connaissance ? J'étais l'ami de Daniel Robs. Daniel Robs dirigeait chez Plon une collection qui s'appelait la collection Présence. Et dans cette collection Présence, ont paru deux cahiers collectifs, l'un intitulé La France de la liberté et l'autre intitulé La France et l'homme de couleur. Non, l'autre est intitulé L'homme de couleur. Et j'ai moi-même écrit un chapitre dans chacun de ces deux livres. Mais dans la même collection, il y a un livre qui s'appelle La France et son armée, qui est dédié au maréchal Pétain, dont l'auteur est un colonel qui s'appelait le colonel de Gaulle. Et Daniel Robs me parlait de ce colonel de Gaulle avec une admiration justifiée. Je l'ai entreaperçu une fois dans l'antichambre de Daniel Robs. Je vois encore sa haute stature. Et alors, transition toute trouvée, la retraite de 1940, mon arrivée à Bordeaux. Je débarque rue Pierre-Duhem à Bordeaux dans l'appartement d'Henri Guillemin qu'occupait alors Daniel Robs, qui était replié à Bordeaux comme professeur d'histoire au lycée. Je dis à sa femme Madeleine, ne m'approchez pas, il y a 8 jours que je ne me suis pas lavé. Madeleine Robs me fait couler un bain. Ce bain ne suffit pas, elle m'en fait couler un second. Puis elle l'a rappelé jusqu'à sa mort, elle m'en fait couler un troisième. Et à ce moment-là, je dis, j'ai entendu, hier, à Niort, nous sommes le 19 juin, l'appel du colonel de Gaulle. Et aujourd'hui, général, je suis absolument décidé à le rallier. Et Daniel Robs me remet une carte pour de Gaulle. C'est le talisman avec lequel je suis parti.
Vous dites d'ailleurs dans un de vos ouvrages, Maurice Schumann, que quand vous avez entendu donc à Niort l'appel du 18 juin, vous pensez à Stein.
Oui. Stein, c'est-à-dire l'homme qui, après Iéna, lève l'étendard, lève prudemment l'étendard de la révolte, beaucoup plus prudemment que... Mais il n'y a pas de guerre à ce moment-là, et personne ne la continue. Plus prudemment, mais dans le même esprit que plus tard de Gaulle. Et surtout, Stein est l'auteur d'une phrase qui me hante à l'époque. La poésie et la sûreté des trônes. Ce que je traduis, si vous voulez, à propos de l'épopée gaulliste, par la phrase suivante, ce que nous enseigne avant tout le général de Gaulle, c'est que la seule faute que l'histoire ne pardonne pas au peuple, c'est de mépriser les rêves.
Et là, le 18 juin, vous êtes sûr de votre choix ?
Ah mais absolument sûr !
Il n'y a pas l'ombre...
Pas l'ombre d'une hésitation. Le rejoindre et à tout prix. Le 17 juin, j'avais embarqué l'unité britannique auprès de laquelle je servais comme officier de liaison. J'avais refusé de m'embarquer avec elle. Gaulliste avant la lettre, je ne voulais pas servir dans une armée alliée, mais étrangère. Mais à la seconde où j'ai su qu'il y avait, allons, une structure frêle mais française, j'ai plus qu'une idée.
Et autour de vous ?
La rejoindre à tout prix. Ah, à cette époque-là, vous en trouverez la preuve dans mon livre Un certain 18 juin, l'esprit de démission, d'abandon qui s'est répandu dans les semaines suivantes, est loin de souffler avec la même force des hommes qui choisiront plus tard la collaboration, ou au moins l'attentisme. Je pense à Rebattet pour la collaboration et à Frabrelus pour un attentisme coloré. Tous les deux disent qu'ils ont rencontré en 1940 des fous qui voulaient continuer la lutte. Que Rebattet dit même que sur la place publique où il a entendu l'appel du maréchal, quelqu'un s'est écrié « c'est pas possible, c'est un faux Pétain ». Et je ne suis pas parti seul. Je suis parti de Niort pour arriver à Bordeaux avec tout un groupe, n'exagérons rien, nous étions une demi-douzaine, qui sommes tous partis de Saint-Jean-de-Luz sur un bateau polonais, qui avons tous rallié les forces françaises. Sauf un, chose curieuse, professeur d'anglais, qui a rallié l'armée canadienne et qui a fini brigadier général dans l'armée canadienne, couvert de décorations et de gloire. Évidemment, s'il était resté dans l'armée française, il n'aurait pas été général.
Votre arrivée à Londres, vous trouvez une ville très calme ?
Alors, j'arrive, stupéfait d'être accueilli comme nous l'avons été. Et j'ai une chance inouïe. C'est-à-dire qu'au moment où je débarque, le 28 juin, car la traversée avait duré 6 jours, et je trouve sur le quai de la gare maritime un officier anglais avec lequel j'avais été pendant la campagne de France, qui avait été blessé, qui d'ailleurs boitait, et qui avait reçu cette affectation. Immédiatement, il me donne toutes les facilités pour gagner Londres. Je vais à l'ambassade de France, où j'ai sous les yeux un spectacle écœurant, horrible. Alors là, vraiment, de gens qui n'ont qu'une idée, c'est de tirer leur épingle du jeu, de regagner la France. J'ai des conversations désagréables avec certains amis, dont plusieurs, d'ailleurs, se sont ensuite redressés. Dans d'autres, au contraire, sont restés captifs de leur premier mouvement qui avait été le mauvais. Et puis, je vais me présenter chez le général. Je lui donne la carte de Daniel Robbs, et c'est là que j'entends ce récit fabuleux, que je rapporte d'ailleurs dans mon dernier livre. Si Hitler avait dû venir à Londres, il y serait déjà. Je suis reconnaissant aux Anglais de ne m'avoir pas donné leur aviation de chasse quand je suis venu leur demander, car c'est elle maintenant qui gagnera dans le ciel de Londres la marne de cette nouvelle guerre. Rendez-moi ce service. Il faut absolument que nous trouvions quelques aviateurs pour participer à cette bataille au nom de la France. Un silence. Vous avez lu Mein Kampf? Oui. Ben, faute de pouvoir atteindre Londres, Hitler se jettera sur Moscou, il ne résistera pas à l'envie de planter des colons dans les plaines fertiles de l'Ukraine. Regardez la map monde, ce que nos généraux ont eu le tort de ne pas faire pendant cette drôle de guerre. Dans le monde tel qu'il est, il ne peut pas y avoir de guerre dans laquelle la Russie soit impliquée sans que le Japon y soit impliqué, ni de guerre dans laquelle le Japon soit impliqué sans que les États-Unis y entrent. Un silence, puis cette phrase textuelle, noté le soir même, dont je garantis là jusqu'à la dernière virgule. En somme, cette guerre est un problème terrible, mais résolu. Il reste à ramener du bon côté, non pas des Français, mais la France.
Certes, quand le général de Gaulle a, pour reprendre l'expression d'un jeune traître de la nouvelle revue autrefois française, qui se disant croyait l'insulter, sentit tout un passé de gloire lui monter à la gorge, il ne s'est pas d'abord demandé si le désastre de nos armes était ou n'était pas réparable. Même si la défaite avait été sans appel, n'en doutons pas, il eût encore proclamé que 100 tonnes de réalité ne faisaient pas une once de vérité et qu'il valait mieux être le cadavre d'un homme libre plutôt qu'un esclave vivant. Mais il a fait appel à l'honneur. Le général de Gaulle n'a pas fait appel qu'à l'honneur. Il n'a pas dit seulement l'honneur de la France lui commande de rester dans le camp de la liberté. Il a dit en outre le bon sens et l'intérêt de la France lui commande de rester dans le camp de la liberté qui, malgré les apparences, est aussi le camp de la victoire finale. Cette alliance de la dignité et du sens commun, vous l'avez aussitôt comprise et ressentie, vous, les deux braves paysans des deux Sèvres, chez lesquels et grâce auxquels la voix du 18 juin est parvenue jusqu'à nous. Depuis la veille, mes camarades et moi-même remarchions interminablement et désespérément la colère et la honte qui nous avaient saisis devant la gare de Rennes, quand, parmi les cadavres des enfants mitraillés, nous avions entendu l'enrouement d'un haut-parleur accoler les mots d'armistice et d'honneur. Et voilà que soudain, nous ne sentions plus ni notre dégoût ni notre fatigue, ranimés et ressuscités que nous étions, parce qu'il s'était trouvé quelqu'un pour s'écrier. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dis que rien n'est perdu pour la France. Rien n'est perdu. En répétant cette phrase, pour nous inciter à rallier celui qui l'avait prononcé, nos paysans saintongeais dans leur simplicité soulignaient la grande révélation que nous venions de recevoir. Certes, avant d'avoir entendu le général de Gaulle, nous nous demandions déjà si l'honneur ne nous commandait pas de refuser la défaite. Mais que la défaite elle-même fût acquise, nous n'osions pas en douter. Désormais, ce n'était plus seulement l'honneur, c'était aussi la raison qui nous ordonnait d'agir et de combattre, tout simplement comme si la veille, le réalisme s'était eu. Rappelez-vous, le réalisme disait, dans 15 jours, Hitler dictera la paix à Londres. Et le général de Gaulle, au soir du 18 juin, répondait textuellement, la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle peut faire bloc avec l'Empire britannique, qui tient la mer et continue la lutte. Rappelez-vous, le réalisme disait, jamais les États-Unis ne sortiront de leur isolement. Et le général de Gaulle, au soir du 18 juin, répondait textuellement, la France n'est pas seule, elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite et en attendant mieux l'immense industrie des États-Unis. Rappelez-vous, le réalisme disait, la Russie, comme l'Amérique, restera neutre ou capitulera sans combat. Et le général de Gaulle, au soir du 18 juin, répondait textuellement, cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser nos ennemis. Le destin du monde est là. Eh bien, aujourd'hui que cette prophétie s'est accomplie point par point, nous voyons bien que s'il ne s'était trouvé personne pour maintenir la France dans le camp de l'honneur, du même coup la France aurait été exclue du camp de la victoire finale. Ses souffrances, ses sacrifices, depuis août 41, la Marne et Verdun, la Somme et Dunkerque, tout cela eût été vain, tout cela n'eût abouti qu'à faire d'elle une double vaincue. Voilà la vérité, limpide et simple, qui, comme elle apparaissait au même instant, attend de futurs combattants des fronts du dehors et du dedans, attend des bouées de Marchand, de Delange, de Larmina, de Leclerc, de Boislambert, de Destiendorf et de Dornano, nous est apparu le 18 juin 40, à la fois dans les paroles du général de Gaulle et dans les yeux de deux paysans français. Il me souvient qu'à la fin du discours, comme éclatait la Marseillaise, l'un d'eux releva la tête, il en avait le droit désormais, et regarda une sorte de tableau fixé au-dessus de son lit, où était épinglée sa croix de guerre et sa médaille militaire. Nous lui avons serré la main, et nous sommes partis à la recherche d'un bateau, en nous disant, son armistice, la mafia de Bordeaux le signera peut-être contre la France, mais au nom de la France, jamais et maintenant. Soldats inconnus, civils inconnus, limiers d'une gloire obscure, volontaires de la torture et de la mort. Vous tous, l'âme du Comité français de la libération nationale, qui sans vous ne vivrait pas, qui sans vous ne vaudrait pas, voici qu'a sonné pour vous l'heure de la première récompense. C'est à tout l'Empire, désormais rassemblé dans l'honneur, je veux dire dans la guerre, que la patrie, grâce à vous, sourit sous ses voiles de deuil. Donnez-nous la force de les arracher et de sécher ces larmes. Donnez-nous d'être dignes de vous. Survivez à vous-même pour nous montrer la voie que vous avez ouverte. À l'heure où tous les fils de la plus grande France, unis dans un seul combat et pour une seule patrie, s'engagent d'un même pas sur le chemin que votre sang jalonne. Voilà notre prière, notre gloire et notre serment. À nous, qui voici 3 ans, jour pour jour, heure pour heure, avons appris, compris et senti pour jamais que les irréductibles sont aussi les clairvoyants, que les intraitables sont aussi les raisonnables, et qu'il n'est, pour faire pâlir celui de la force, d'autres éclats que celui de la pureté.
C'était Mémoire du siècle avec Maurice Schumann. Émission proposée par Olivier Germain-Thomas, mixage Monique Pratt, réalisation André Mathieu. Document d'archives de l'INA, 18 juin 1943, Radio Brazzaville.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1986. Émission que vous pourrez réécouter en ligne durant 1000 jours ou podcaster durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
The door to your ice world.